Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une, évasion de 27 détenus de la prison de Luebo Kasai dans la nuit de mardi à hier mercredi. Parmi eux, des bandits de grand chemin et des criminels venus de Mbujimayi, situation qui inquiète la population locale. L'administrateur de Luebo dit avoir convoqué une réunion de sécurité à ce sujet. Une cinquantaine de lauréats de l'examen d'État 2019-2020 ayant obtenu plus de 85% ont reçu aujourd'hui des bourses Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru. C'était lors d'un déjeuner offert par la Première Dame à Kinshasa en présence du chef de l'État et d'autres personnalités du pays. Les différentes morgues de Lubumbashi sont saturées et les cimetières débordés, constat de l'administrateur général de la ville et responsable des services d'inhumation, Cyril Moulagi, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. 27 détenus se sont évadés de la prison centrale de Luebo dans la province du Kasaï. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mardi à hier mercredi, rapportent les sources locales. L'information a été confirmée par l'administrateur du territoire qui souligne que ces prisonniers sont recherchés. François Kadima, reportage.
Ces détenus sont sortis par l'entrée principale de la prison, rapporte l'administrateur du territoire de Luebo. Selon lui, ils ont forcé la porte et les trois gardes avec une arme ont lâché. Et les 27 parmi lesquels les condamnés et les prévenus se sont évadés. Roger Kabanangi.
Ce sont évadés par la porte d'entrée. On voulait faire entrer le chef de cour. C'est-à-dire qu'ils ont profité pour pousser la porte et puis ils sont évadés. Les gardiens, ils n'avaient pas de force.
Pendant cette évasion, un autre détenu, chef de la cour de la prison, a connu une fracture à la jambe droite et il est interné dans un centre hospitalier local pour des soins. L'administrateur des territoires de Luebo, qui a convoqué une réunion de sécurité, note que dans le groupe de prisonniers ayant pris fuite se trouvent des bandits des grands chemins et des criminels venus de Mbujimayi au Kasaï oriental. Cette situation inquiète la population locale qui indique se sentir en insécurité après cette évasion. Des sources sécuritaires rapportent que des recherches sont en cours pour retrouver ces fugitifs. Notons que la prison centrale de Luebo compte 63 pensionnaires. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Entre-temps, le ministre des Droits humains fustige la procédure qui consiste à transférer les jeunes délinquants communément appelés Kuluna de Kinshasa vers Kanyamakasese. Fabrice Puela, qui intervenait ce jeudi dans le magazine Parole aux auditeurs, a expliqué que cette pratique violait les droits humains. Il a également commenté le rapport des Nations Unies et celui de la Commission nationale des droits de l'homme publié la semaine dernière. Ces rapports indiquent une diminution du nombre des violations des droits de l'homme en RDC au premier semestre de cette année. Albert Fabrice Puela, au micro de J. Lungembo.
Dans l'arsenal juridique congolais, à ce jour, je mets à défi quiconque me dirait qu'il y a une infraction qu'on appelle Kuluna. Il n'y en a pas.
Les transferments de ces Kuluna à Kanyamakasese, c'est une action gouvernementale. N'est-ce pas là que vous êtes en train de vous désolidariser de ces gouvernements?
Quand vous parlez de l'action gouvernementale, ça veut dire que c'est au niveau du gouvernement un point prévu à l'ordre du jour que nous débattons. Mais c'était dans un rapport, par exemple, des membres du gouvernement qui a eu transfert.
Nous sommes à la sixième vague.
Déjà lors de la troisième vague, je pense que c'était lors du troisième conseil des ministres, lors du rapport du ministre de l'Intérieur, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Que non, 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 s'il vous plaît. Le chef de l'État a insisté sur le respect des droits de l'homme. Les Kuluna, c'est un phénomène négatif. Il ne faut pas que les gens disent dans la rue que non, Puela défend les Kuluna, Puela est ami aux Kuluna. Non, il m'a été confié le ministère des droits de l'homme. Faire le contraire ferait que je sois incompétent, que je ne sois pas dit dans quel cas il faudrait qu'on me mette à la porte, qu'on puisse me révoquer du gouvernement. Parce que je serais incompétent si je ferme les yeux, si je ne dis pas que cette procédure viole les droits de l'homme.
La tension était perceptible ce jeudi au marché central de Kinshasa et ses environs. Les personnes rencontrées sur place exprimaient manifester leur colère à cause du mauvais traitement réservé à quelques Congolais en Inde, selon elles. Conséquence, la majorité des magasins tenus par des Indo-Pakistanais sont restés fermés depuis hier après-midi. Une tension aussi perceptible à la 9e rue limitée industrielle. Ici, un conteneur a même été dévalisé. Dans tous ces lieux, la présence policière était importante. Christelle Fritti signe ce reportage.
Nous sommes au grand marché de Kinshasa. À première vue, c'est la présence renforcée de la police qu'on remarque, surtout au croisement des avenues Commerce et Kasavubu. La police a été déployée pour protéger le magasin des Indo-Pakistanais que la population menaçait de piller. Réaction.
Le magasin sont fermés depuis hier à partir de 14h-15h jusqu'à maintenant. Les policiers sont là pour protéger les magasins des Indiens.
En tout cas, nous aimerions à ce que la voix de son voix soit écoutée partout. On bafoue nos droits, nos libertés, en tout cas ce n'est pas bien.
Pendant ces temps, à la 9e rue Nimeté industrielle, la situation était quelque peu mouvementée aussi ce jeudi. Un groupe d'individus est allé manifester devant les entrepôts de friperies des Indiens. Selon les commerçants trouvés sur place, ces situations ont paralysé leurs activités. Témoignage.
Nous sommes humains, ils ne peuvent pas nous maltraiter de la sorte. Le président doit mettre fin à ces barbaries. Nous commerçons, nous n'allons pas vendre aujourd'hui. Nous n'allons pas condamner les Congolais parce qu'ils ont pillé. La vie humaine vaut plus.
Rendons-nous en Ituri. Le gouvernement provincial, avec l'appui de la MONUSCO, organise depuis lundi l'escorte des véhicules sur le tronçon Komanda-Luna sur la route nationale numéro 4. Selon le porte-parole des FARDC en Ituri, l'objectif est de sécuriser les personnes et leurs biens contre les attaques à répétition des rebelles ADF qui ont déjà incendié au moins 10 véhicules depuis un mois. Une mesure accueillie avec satisfaction par les chauffeurs et les passagers dont certains avaient suspendu le trafic sur cette route. Reportage Isaac Remoyope.
Des convois de véhicules sont organisés chaque jour sur les tronçons Komanda-Luna au site d'Irumu. Selon les chauffeurs, 4 véhicules blindés de la MONUSCO avec des casques bleus escortent le cortège des voitures, des transports en commun et des camions de marchandises. Une Jeep de FARDC fait des patrouilles motorisées pour prévenir toute attaque de ces rebelles. Les chauffeurs s'en réjouissent. Cependant, ils demandent au gouvernement de réhabiliter cette route qui est parsemée de bourbiers. Certains camions bloquent les passages et exposent tous les convois à l'attaque des hommes armés. Le député national Jackson Aou ce qui revient de la zone salue cette initiative de l'armée de la MONUSCO, mais il demande au gouvernement de mener des opérations à profondeur dans la forêt pour sécuriser tous les villages situés le long de ces axes routiers qui sont actuellement vidés de leurs habitants.
C'est une bonne mesure, mais une mesure qui est incomplète. Donc dire qu'on va juste protéger les passants, ce n'est pas suffisant. On sécurise par contre les agglomérations, le village, toute cette route nationale, et puis et les passants et les domiciliés seront sécurisés.
Le porte-parole de l'armée en Ituri a indiqué que le gouverneur de province lors de sa mission la semaine dernière à Komanda a rassuré la population sur sa détermination à démanteler les groupes armés qui déstabilisent cette zone, mais aussi d'engager des travaux pour l'entretien de cette route. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Je vous le disais en titre, une cinquantaine des lauréats de l'examen d'État édition 2019-2020 ayant obtenu plus de 85% ont reçu ce jeudi des bourses de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi. C'était au cours de la cérémonie de remise des bourses Excellencia de la Fondation. La cérémonie s'est déroulée aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine ici à Kinshasa au cours d'un déjeuner offert par la Première Dame et en présence du chef de l'État, du Premier ministre, des ambassadeurs, de quelques membres du gouvernement et des partenaires du projet. Les détails dans ce reportage de Jody Daniel Kachama.
57 lauréats au total ont bénéficié de cette bourse. Certains vont aller étudier en France et au Maroc, d'autres ici au pays. Quelques bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance.
Au-delà de la gratitude que je peux ressentir envers la Première Dame, je suis surtout très fier de voir mes efforts récompensés. À l'Exeta, j'ai obtenu 86% qui m'ont rendu éligible au test de la Fondation, où j'ai obtenu 92%.
Kindaya Sabwa, je nous remercie du fond du cœur la Première Dame pour cette offre, en tout cas spéciale. Elle nous permet de réaliser nos rêves. En tout cas, grand merci à elle.
Prenant la parole, la Première Dame a encouragé les bénéficiaires à travailler d'arrache-pied pour ne pas perdre la bourse. Le Congo a besoin des gens bien formés pour son développement, a affirmé pour sa part le chef de l'État. En outre, il a encouragé les bénéficiaires à tirer profit de cette chance que beaucoup n'ont pas. Motivé par l'initiative de la Première Dame, le gouvernement congolais va lancer l'année prochaine un programme de bourses pour le troisième cycle. Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire.
Il faut dire que je suis impressionné par le travail qui est fait par la Première Dame. Nous aussi, nous voulons réveiller la bourse. Nous avons déjà présenté un plan pour des bourses. La première partie concerne le troisième cycle et ça, nous allons commencer à le faire de l'année prochaine.
Le programme Excellencia de la Fondation Denis Nyakeru compte offrir 1000 bourses aux lauréats de l'examen d'État dans les 10 prochaines années.
Direction la province de l'Équateur. La journée internationale de la jeunesse n'est pas passée inaperçue. Plusieurs structures des jeunes ont saisi l'opportunité pour s'exprimer face aux enjeux sociopolitiques du moment. Ils veulent également éveiller la conscience de leurs pairs sur la propriété de leur environnement, conformément au thème de cette année, transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète. Le point avec Paul-Richard Malengela.
En Bandaka, plusieurs associations de jeunes ont été au rendez-vous ce jeudi avec leur journée internationale. Le Conseil provincial de la jeunesse CPJ Équateur a prévu la sensibilisation dans les milieux accidentés. Le président Pierre Botoul et son comité sont allés lancer à cette catégorie de jeunes un message d'auto-prise en charge.
Les jeunes puissent un peu se lancer au leadership des faits qui nous aide à être vraiment visibles, à créer des business, des petites entreprises, à créer aussi des unités de reproduction pour que nous puissions être autonomes afin d'éviter le fait des manipulations, des instrumentalisations politiques.
Sur la même lancée, le collectif des jeunes pour le développement a organisé cet avant-midi une conférence débat au parc des jeunes sous le thème « La jeunesse de l'Équateur face aux enjeux politiques et sociaux actuels ». Honoré Tichik Mbango, administrateur du Colged, explique pourquoi ce thème.
Parce que dans notre province, nous avons fait des constats des autorités politiques de la place qui ne travaillent pas pour l'intérêt, le développement de la population et de la jeunesse.
Par ailleurs, les jeunes reporters de l'UNICEF dans leur émission ont prévu aussi la sensibilisation de leurs pairs sur la santé et l'environnement. Déborah Booto, journaliste et encadreuse.
De notre côté, nous avons prévu une petite émission afin de sensibiliser les pairs, donc les amis enfants, qui n'étaient pas peut-être au courant de cette journée.
Bandaka, Paul Richard Malingué, la radio Okapi.
Nord-Kivu, cette alerte sur les mauvaises conditions de vie des sinistrés des inondations du week-end dernier dans la région de Kamandi, chefferie de Batangi sur la côte ouest du lac Édouard. L'alerte est de la société civile du Sud Lubero. D'après les acteurs de la société civile, de nombreuses familles touchées sont sans assistance et demandent au gouvernement de leur venir en aide grâce à Mzati. Reportage.
D'après Amani Kinda, acteur de la société civile, plus de 1000 ménages répertoriés par la société civile ont été affectés par cette catastrophe naturelle et vivent sans abri et sans aucune assistance. Il ajoute que 85 autres familles de Ndouali qui se sont déplacées à Buhoyo et qui sont dans des familles d'accueil éprouvent d'énormes difficultés pour trouver de quoi manger, car les familles d'accueil elles-mêmes sont en difficulté parce que leurs champs sont inondés. On parle de plus de 300 hectares de champs inutilisables seulement dans cette entité, sans compter d'autres entités voisines. Les acteurs de la société civile lancent un cri d'alarme aux autorités pour venir en aide à ces sinistrés. Pour sa part, le chef de la chefferie de Batangi indique que cette situation touche toutes les entités qui ont connu cette catastrophe. Mwamistuka Mwanaweka dit avoir enregistré jusque-là 840 ménages sinistrés. Cette autorité coutumière appelle à son tour les humanitaires et les personnes de bonne volonté à venir en aide à ces personnes en situation de vulnérabilité. Jusque-là, nous ne savons pas si des dispositions ont été prises au niveau de l'administration du territoire pour venir en aide aux sinistrés, car nous n'avons pas réussi à joindre le numéro 1 du territoire. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, la pénurie des poissons pour la population habitant les villages Bendela et Mundai, deux villages situés à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bandundu, faisant frontière entre les provinces du Kwilu et du Maïndombe. Cette pénurie intervient après l'interdiction de pêcher sur la rivière Kasai, polluée depuis l'Angola. Quelques pêcheurs récalcitrants ont été arrêtés et leurs poissons jetés dans l'eau par le service de sécurité, en présence de la délégation de l'Assemblée provinciale du Kwilu qui a effectué une descente sur place. Le président intérimaire de l'Assemblée provinciale du Kwilu sollicite une expertise pour déterminer les dégâts environnementaux et appelle la population à respecter les mesures prises par le gouvernement provincial. Le point dans ce reportage de Irène Boma.
Après interdiction par le gouverneur de la province du Kwilu de la pêche sur la rivière Kasai dont l'eau est devenue polluée depuis l'Angola, c'est la disette qui s'installe déjà dans les villages Bendela et Mundai. Témoignage des habitants. C'est difficile. La famine est venue. Nous vivons de la pêche. Maintenant que l'eau est polluée, la vie est devenue misérable. N'ayant pour activité principale que la pêche, certains riverains violent carrément cette mesure du gouvernement provincial et continuent à pêcher sur cette rivière. En présence du président intérimaire de l'Assemblée provinciale du Kwilu qui s'est rendu sur place mercredi, des poissons saisis par la Direction générale des migrations ont été reversés dans l'eau. Occasion pour les députés provinciaux Dario Kimukedji de sensibiliser cette population.
Effectivement, nous constatons que la rivière Kasai est infectée. Alors, nous invitons toute la population du Kwilu de pouvoir s'abstenir de cette eau infectée. Ni se laver, ni consommer du poisson. Ce qu'il faut affirmer, c'est qu'il y a des dégâts environnementaux. Nous allons saisir l'autorité provinciale pour que les experts puissent au moins nous dire les dangers de contamination qu'il y a par rapport à cette eau.
Ces populations riveraines appellent les autorités de la province et du pays à trouver une solution urgente à cette situation. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Au moins 52 personnes sont mortes dans des inondations au Niger depuis juin dernier. 34 ont été blessées et des milliers ont perdu leur maison. Les fortes précipitations enregistrées cette semaine à Niamey ont occasionné le décès de 5 personnes, dont 4 à Tchombo et 1 à Gabgoura. Plus de 4000 maisons et 200 cases se sont effondrées et 800 têtes de bétail ont été emportées par les eaux. Ceci est contenu dans le rapport journalier de la Direction générale de la protection civile du Niger. Il espère être le futur dirigeant de la Zambie. Le candidat Hakainde Hichilema, rival historique du président sortant Edgar Lungu, a voté aujourd'hui pour la présidentielle comme 7 millions d'autres Zambiens. 14 autres candidats sont en lice, mais la course se joue essentiellement entre les deux hommes. Hakainde Hichilema, qui se présente pour la 6e fois, espère que cette fois-ci sera la bonne.
L'invité.
Les différentes morgues de Lubumbashi sont saturées et les cimetières débordés, constat fait par l'administrateur général de la ville cuprifère et responsable des services d'inhumation. Pour Cyril Moulagi, la population est appelée à observer les mesures barrières pour se protéger et protéger aussi les autres. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Cyril Moulagi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
De plus en plus, les sources médicales parlent des flambées des cas de la COVID-19 à travers la ville de Lubumbashi et que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui décèdent de cette maladie. Est-ce que les morgues de Lubumbashi sont capables d'accueillir ces différents corps qui arrivent?
Il y a beaucoup de morts, donc c'est un peu difficile à ce stade de vous dire que les morgues sont capables de réceptionner tous ces corps-là. Des fois, nous entendons que telle morgue n'est plus capable de recevoir des corps parce que les morgues sont saturées, vraiment saturées.
Quelle est la situation qui prévaut dans les différents cimetières de Lubumbashi que vous gérez?
Dans les divers cimetières, c'est vraiment de la pagaille parce que tous les jours, c'est plein. Il y a beaucoup de décès quand les morgues sont pleines, à dire par rapport au cimetière. Parce que tous ces corps qui sont dans les morgues, c'est, la finalité, c'est de les amener dans les cimetières. Ce qui fait que les cimetières sont vraiment, on est vraiment dépassé par rapport à ça. Même pour la signature des permis d'inhumation, tous les jours ici, c'est beaucoup de permis que nous signons pour les enterrements dans les différents cimetières.
Dans les différents cimetières, qu'est-ce qui est fait pour contenir ce monde?
On a pris des mesures pour dire qu'il faut seulement 20 personnes ou 50 personnes pour l'enterrement. Il faut 50 personnes, mais nous avons limité jusqu'à 20, même à la morgue ici des cliniques, quand vous allez là-bas, on va vous dire, ce papa l'a dit, il ne reçoit que 10 personnes pour qu'on puisse prendre le corps. Mais c'est toujours plein, non? Une petite morgue qui a une petite capacité, mais lorsque dans cette morgue vous avez 26 corps.
Et vous les mettez comment?
Ça, c'est devenu très difficile parce qu'il y a même des gens qu'on ne sait pas bien garder dans les frigos. C'est une difficulté sérieuse.
Et au cimetière, ça se passe de quelle manière pour contenir ce monde?
Non, au cimetière, pour les contenir, ça c'est difficile. Il y a les gens qui viennent pour les enterrements et on dirait qu'ils viennent pour célébrer le 1er août. Vous voyez, le 1er août, les gens, tout le monde vient au cimetière. C'est pour voir là où on avait enterré un des membres de la famille. Mais maintenant, là, tous les jours ici, c'est le 1er août. Et les gens sont dans les cimetières pour les enterrements et non pour célébrer la mémoire de ceux-là qui nous avaient quittés. Ils sont là pour aller enterrer maintenant.
Mais comment est-ce que vous faites? Il n'y a pas un nombre limite des enterrements par jour dans un des cimetières où on peut enterrer juste...
Le cimetière qui a limité le nombre, d'ailleurs, on a même dit qu'il a fermé, c'est le cimetière de Kasangiri. Kasangiri a dit, je ne peux enterrer que 10 corps par jour. C'est comme ça que vous allez trouver qu'à la date d'aujourd'hui, on vous dit qu'on est en train d'enregistrer ou on est en train de délivrer les permis d'immigration pour les gens qu'on va enterrer samedi. Si vous venez aujourd'hui pour enterrer aujourd'hui au cimetière de Kasangiri, vous n'allez pas enterrer. Parce que on a déjà enregistré ceux-là qu'on doit enterrer aujourd'hui. Et ceux-là qu'on enregistre aujourd'hui, c'est pour enterrer samedi. Oui, c'est déjà limité. Et nous évoluons comme ça.
Et que dire d'autres cimetières périphériques?
Les cimetières périphériques, là, les gens viennent. Vous savez, la difficulté, c'est que s'il y a des gens qui vont enterrer à Kasangiri, nous estimons qu'ils ont un peu de moyens. Mais là où les gens payent 40 000 francs pour enterrer, et vous leur demandez d'attendre 7 jours pour enterrer ou 4 jours pour enterrer, ça fera un problème très sérieux.
Et quelle est la solution qui est préconisée dans l'entretemps?
La solution, c'est, ce sont des mesures qu'on doit prendre par rapport à la vie de tout un chacun. Il faut arriver à sécuriser sur le plan sanitaire, toutes les personnes qui vivent avec nous. Sinon, les gens meurent tous les jours. Il y a des mesures que l'État a prises pour dire que autant de gens peuvent aller à l'enterrement pour éviter la propagation de la maladie ou de la pandémie. Ça, ça a été pris. D'ailleurs, c'est par rapport à ça que Kasangiri a dit qu'il ne peut pas enterrer plus de 10 personnes. C'est un peu ça. Les gens qui gèrent les morgues ont des difficultés aujourd'hui pour refuser à ce qu'on puisse enterrer. Mais les mesures ont été prises pour demander aux gens d'essayer de voir comment se contenir et diminuer les gens qui doivent aller dans les cimetières pour aller enterrer les leurs. Nous demandons à toute la population de pouvoir essayer de gérer les mesures barrières parce que la maladie est vraie et les gens doivent se gérer mutuellement. Sinon, nous propageons la maladie nous-mêmes facilement. Nous devons éviter ça.
Cyril Moulagi, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Gan.
Notre invité, l'administrateur général de la ville de Lubumbashi et responsable des services d'inhumation, s'entretenait avec Jean Gandou. C'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis.